Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. L'Épître aux Hébreux fait beaucoup de comparaisons entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre alors et maintenant. Alors, Dieu parlait par la voix des prophètes et des anges. Maintenant, il parle par son Fils. Alors, Dieu se servait du ministère des hommes. Maintenant, du ministère de Jésus. Alors, les promesses de Dieu n'étaient applicables qu'à un seul peuple, Israël. Maintenant, les promesses de Dieu s'appliquent à tous les peuples, à tout le monde. Alors, le sang des sacrifices couvrait les péchés. Maintenant, le sang de Jésus ôte les péchés. Alors, les sacrificateurs étaient choisis parmi le peuple, nommés pour un temps limité. Maintenant, nous avons un grand sacrificateur, souverain, établi par Dieu et dont le ministère est éternel. Vraiment, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus a un meilleur ministère, la nouvelle alliance est une meilleure alliance, les promesses de cette nouvelle alliance sont des meilleures promesses. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Il est remarquable, frappant même, que ce texte se trouve justement dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est une lettre écrite à des Juifs qui se sont convertis à Christ, pas des païens, mais des Juifs, pas des ex-Juifs, des Juifs toujours Juifs, aujourd'hui on les appellerait des Juifs messianiques. Ils se sont convertis à Jésus. Et si je dis que c'est remarquable que ce texte soit écrit aux Hébreux, c'est parce que s'il y a un peuple sur la terre qui connaît le sens d'une alliance avec Dieu, c'est justement le peuple juif, n'est-ce pas? Le peuple wallon n'a jamais eu une alliance avec Dieu, les Flamands encore moins, n'est-ce pas? Mais les Juifs ont toujours profité d'alliances, au pluriel. Et nous appelons l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, l'espèce de contrat, si vous voulez, que Dieu a signé avec les Juifs, le peuple d'Israël, déjà au temps de l'Exode. Mais nous, chrétiens, nous vivons sous la nouvelle alliance. Le contrat de Dieu avec tous qui acceptent Jésus comme sauveur. L'ancienne alliance était bonne. La nouvelle est meilleure. D'accord? Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Je propose ce matin de comparer cette ancienne alliance à la nouvelle. L'ancienne alliance était basée sur ce que l'homme fait, tandis que la nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu fait. La première alliance de Dieu avec l'homme, le contrat est établi où? Dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Avec Adam et Ève. Les termes de ce contrat ne peuvent être plus faciles. Dieu leur fournit de tout ce qu'ils ont besoin, gratuitement. Ils vivent dans un paradis, avec un climat parfait, une nourriture saine et abondante. Ils n'ont aucun souci. Ils ont un mariage parfait. ils ne tombent jamais malades, ils ne vieillissent même pas. Ça doit être une vie formidable, n'est-ce pas? Jamais de facture, jamais d'impôts, ni gouvernement, ni police, il n'y a même pas de loi, sauf eux. L'Éternel donne cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Si jamais il y a une alliance qui aurait duré éternellement, ça doit être celle-là, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être plus simple. Dieu pourvoit tout, gratuitement. Il n'y a pas de loi, sauf eux. Mais cette alliance ne réussit pas. Bien que ce soit si avantageuse pour l'homme et si facile, l'alliance ne réussit pas. Pourquoi pas? Parce que l'homme déchire le contrat. N'est-ce pas? Adam et Ève déchirent le contrat, ils transgressent la seule et unique loi. Ils mangent le fruit de l'arbre défendu. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, ne les tue pas. Au contraire, il établit une nouvelle alliance avec eux et avec leurs descendants. Et cette deuxième alliance est encore plus simple que la première. Elle ne contient même pas une seule loi. L'homme doit seulement écouter sa conscience. Mais même ça, ça va être trop difficile. Il n'écoute pas sa conscience. Caïn tue son frère Abel. Et l'humanité tombe de plus en plus bas dans le péché jusqu'à ce que Dieu purifie la terre par le déluge. Et seul le juste Noé et sa famille survivent. Quand Noé sort de l'arche, Dieu lui donne encore une nouvelle alliance, signée avec un arc-en-ciel. Encore plus facile. L'homme est autorisé à se gouverner lui-même, établir ses propres lois. Combien de temps pensez-vous que cette nouvelle alliance va réussir? Pas très longtemps. Parce que Noé, un homme juste et intègre dans son temps, qui marchait avec Dieu, commençait à cultiver la terre et planta la vigne. Et un soir, il boit un verre, et puis encore un, et puis encore un, et à la fin, toute la bouteille, et il s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. L'homme n'est pas seulement satisfait de gouverner la terre. Malheureusement, il veut aussi s'imposer au ciel. Allons, dit-il, bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Dieu descend, détruit leur tour de Babel, disperse l'humanité dans le monde entier. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà pourquoi les Wallons ne parlent pas le flamand. Ça remonte à ça. Alors Dieu établit encore une nouvelle alliance. Mais cette fois-ci, pas avec toute l'humanité, maintenant avec un seul homme. Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette quatrième alliance a une base beaucoup plus solide que les alliances précédentes. Elle est fondée sur la promesse de Dieu. Néanmoins, 5 siècles plus tard, au lieu de se réjouir en Dieu, béni dans leur terre promise, le peuple d'Israël gémit en esclavage en Égypte. Dieu entend leur cri et leur envoie Moïse pour les délivrer. Et en route vers la terre promise, Dieu établit encore une alliance avec son peuple. Cette fois-ci, pas une alliance orale comme toutes les alliances précédentes, mais maintenant une alliance écrite sur des tables de pierre. Et les lois que Dieu donne à Moïse, 613 en total, garantissent la vie heureuse, la prospérité, la liberté pour le peuple de Dieu. Cependant, les Juifs transforment ces lois. Et au lieu d'apporter la vie, la liberté, la prospérité, les Juifs en font des instruments de jugement, de condamnation, de mort. Jusqu'au moment où, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. L'ancienne alliance exigeait l'obéissance à ces 613 lois pour mériter les bénédictions de Dieu. Mais les malédictions venaient si on n'obéissait pas. Les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent pas, heureusement, de nos œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et la nouvelle alliance est l'alliance de la grâce. Qu'est-ce que c'est, en somme, la grâce? Qu'est-ce que c'est? Demandons-le à une femme qui a été arrêtée par les scribes et les pharisiens, arrêtée en flagrant délit d'adultère. Les scribes et les pharisiens viennent de la jeter dans la poussière du parvis des païens au temple à Jérusalem, au pied de Jésus. Et les scribes et les pharisiens demandent à Jésus, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Jésus ne dit rien. Il fait quelque chose. Jésus s'est embaissé et criait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce qu'il a écrit? On aimerait savoir, n'est-ce pas? La seule fois dans le Nouveau Testament qu'il est marqué que Jésus écrit quelque chose, et nous ne savons même pas ce qu'il a écrit. Mais nous savons bien ce qui est le résultat. Les pharisiens se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Frères et sœurs, ça c'est la grâce. Elle mérite la mort par lapidation publique. Mais Jésus lui donne la vie. Ça c'est la grâce. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ a obtenu ministère d'autant plus supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Deuxièmement, l'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu. La nouvelle alliance les approche de lui. L'alliance ancienne défendait formellement de s'approcher près de Dieu. Qu'avant ça, n'est-ce pas? Quand Moïse monte sur le montagne de Sinaï pour recevoir les 10 commandements, Dieu prévient le peuple, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. L'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. Ça n'a pas empêché l'homme de s'approcher, d'essayer de s'approcher de Dieu. J'ai déjà parlé de la construction de la tour de Babel. la première tentative de l'homme de s'approcher de Dieu, mais pas la dernière. L'homme a toujours essayé de s'approcher de Dieu. Il a fait des sacrifices, même des sacrifices humains, même des sacrifices d'enfants. Les hindous font des bonnes œuvres pour s'approcher de Dieu. Les musulmans prient, les bouddhistes méditent, les juifs se purifient. Mais tous les efforts de l'homme ne l'ont jamais approché d'un millimètre de Dieu, n'est-ce pas? Pendant 1400 ans, l'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. Seul le souverain sacrificateur était autorisé à passer derrière le voile et entrer dans le Saint des Saints avec le sang de l'agneau sacrificatoire pour expier les péchés du peuple de Dieu. Et cela seulement une fois par an. Et encore pendant quelques instants seulement. Mais vers 3 heures de l'après-midi du vendredi saint, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde crie victorieusement à la croix de Golgotha, tout est accompli. Et à ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, confirmant que maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Christ a obtenu un ministère supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Troisièmement, l'ancienne alliance était exclusive. La nouvelle est inclusive. L'ancienne alliance est une alliance avec une seule race, un seul peuple. L'Éternel dit à Israël, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Le mot saint là veut dire séparé. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Les Juifs chantent, jusqu'aujourd'hui même, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Tous les autres peuples était exclu de l'ancienne alliance. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privé du droit du cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Cependant, quand Dieu a fondé le peuple d'Israël en Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais les Juifs semblent n'avoir jamais compris cela. Les Juifs n'ont jamais été un peuple missionnaire, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu des témoins de Jéhovah chez vous à la porte, mais pas des témoins juifs, n'est-ce pas? Ils ne vous ont jamais invité à leur synagogue. Les Juifs ont toujours cru et ont voulu garder leur Dieu pour eux exclusivement. Mais il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a proclamé, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Pierre dit à Corneille, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. L'ancienne alliance exclue, la nouvelle inclue. Et devant le trône de Dieu, il y aura une grande foule que personne ne peut compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ça ne nous encourage pas, ça? On pourra même parler le français aussi. Alléluia. Nous sommes tous inclus. Du pécheur le plus pécheur au saint le plus saint. car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vraiment, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des nouvelles promesses, de meilleures promesses. Quatrièmement, l'ancienne alliance était temporaire. La nouvelle alliance est permanente, éternelle. Toutes les alliances de l'Ancien Testament ne sont restées valables que pour une période limitée. Quelques mois, quelques années, quelques siècles seulement. Elles ont toutes failli et elles ont toutes dû être remplacées. Pourquoi? Parce qu'elles dépendaient de l'homme. Et l'homme a toujours chuté. Mais la nouvelle alliance ne porte pas la signature de l'homme. La nouvelle alliance est signée dans le sang de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance au mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance ne dépend pas de l'homme, elle dépend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qui dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dont le Fils dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ a obtenu le ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Cinquièmement et dernièrement, et je voudrais parler un peu plus longtemps sur ce cinquième point. L'ancienne alliance était basée sur le sang d'animaux. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène, comme nous venons de le faire ce matin, nous nous souvenons de ces paroles de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance au mon sang. L'ancienne alliance était scellée aussi, mais par le sang des animaux. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, il fit aspersion sur le livre lui-même sur tout le peuple. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça, c'est intéressant. Vous êtes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que le sang parle? Demandez ça à votre médecin. Il vous pique. Prend du sang, l'envoie au labo, et ça revient, et il lit un papier. Il sait tout sur vous, n'est-ce pas? C'est quelques gouttes de sang, ça parle. Il faut savoir le lire, mais ça parle. Le sang de Jésus parle aussi. Mieux que le sang d'Abel. Nous savons que ce que crie le sang d'Abel, n'est-ce pas? Vengeance. Mais que dit le sang de Jésus? Les évangiles racontent que le sang de Jésus a coulé 4 fois. Et chaque fois que le sang de Jésus a coulé, il nous a laissé un message. La première fois, c'est dans le jardin de Gethsémané, où étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus agonise, n'est-ce pas? Il sait que ses disciples vont le renier, le trahir, l'abandonner. Il sait que même son Père Céleste va le laisser lutter seul au moment donné. Dans l'obscurité astronomique mais aussi l'obscurité psychologique et spirituelle. Dans la douleur physique et psychologique. Et l'angoisse de Jésus à ce moment-là est si profonde qu'il implore, Père, si tu voulais éloigner de moi ça. Nous ne saurions jamais, je pense, combien Jésus était proche de demander ces légions d'anges que son Père avait promis de placer à sa disposition. Ce que nous savons bien, c'est que Jésus a triomphé du diable et qu'il a complètement accompli le plan divin de notre salut. Car quand il prie, Seigneur Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il complète sa prière en disant toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et c'est à ce moment-là, quand Jésus prie cette prière-là, cette prière qui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à la fois celle sa mort et notre salut, est en agonie. Il priait plus instamment, et c'est à ce moment-là que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce que dit ces grumeaux de sang? Eh bien, ils ont un message formidable. C'est-à-dire que Jésus triomphe du Satan. Que Jésus triomphe sur la tentation. Et le sang de Jésus proclame la victoire totale et éternelle de Jésus-Christ sur Satan, sur le péché et sur l'enfer. La deuxième fois que le sang de Jésus coule, c'est quand il est flagellé par les soldats romains. Les soldats romains le mettent à nu, l'attachent par ses poignets au poteau de la supplice, juste au assez pour que ses pieds ne puisse toucher la terre. Et puis, ils le battent avec des fouets faits de lanières de cuir, cloutés avec des morceaux de métal et d'os aiguisé, très tranchants. Ils battent Jésus sur tout son corps. Comme il est pendu, il ne sait pas résister. Et le sang du Seigneur ruisselle alors à flot. Qu'est-ce que dit ce sang? Ce sang de sa flagellation. Eh bien, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le deuxième message du sang de Jésus, de cette nouvelle alliance, c'est le message de la guérison divine. La troisième fois que le sang de Jésus coule, et quand les soldats romains tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Le crâne a la plus haute concentration de vaisseaux sanguins sur toute la surface du corps humain. Alors quand les soldats pressent la couronne d'épines sur la tête de Jésus, son sang coule à flot sur son visage et dans ses cheveux. Quel est le message du sang de la couronne des épines? Vous savez, d'habitude, on illustre les épines comme ici dessus, comme des épines d'un rosier, par exemple. Probablement, ce n'était pas ça. Il pousse dans la région de Jérusalem un petit arbuste qui n'a pas de feuilles, mais qui a, on dirait, des aiguilles. N'est-ce pas? La première fois que j'ai été en Israël, le guide professionnel nous a montré cet arbuste. Il a dit, surtout ne le touchez pas. Parce que ces aiguilles percent la peau. Moi, je suis déjà peut-être un homme âgé, mais ici, je suis encore un petit garçon. Et si vous me dites, n'y touchez pas, quand il ne regardait pas, je touchais. J'ai rien senti. Mais quand j'ai regardé ma main, quelques secondes après, elle était remplie de sang.
Et c'est probablement de ça que cette couronne d'épines a été faite.
Le sang de Jésus a dû couler à flot sur son visage, dans ses cheveux.
Quel est le message du sang de la couronne d'épines? Eh bien, depuis le début de la Bible, les épines sont un symbole de la malédiction, n'est-ce pas?
Après la chute, Dieu dit à Abraham, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces. Et le péché d'Adam et Ève ont amené le monde et l'humanité sous la malédiction du diable. Le paradis s'est couvert d'épines et de ronces. La terre est maudite par le diable, couvert de péchés, de maladies, de faim, de pauvreté, de dépression, de violence, de guerre, de peur. Qui peut libérer le monde de la malédiction du diable? Eh bien, le sang de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. La quatrième et la dernière fois que le sang de Jésus coule, c'est quand un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. L'eau témoigne de la purification du péché. Le sang parle de la rédemption du péché. Vous avez été rachetés. Ceci, c'est le message du sang de Jésus. En somme, le résumé de la nouvelle alliance. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans dépôt et sans tache. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Parce que Jésus-Christ, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Je termine. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. L'ancienne alliance s'était basée sur ce que l'homme fait. La nouvelle alliance sur ce que Dieu fait. L'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu. La nouvelle alliance nous rapproche de Dieu en enlevant toute barrière de péché. L'ancienne alliance était exclusive. Nous étions exclus, nous les Belges, même les Anglais. Mais la nouvelle alliance inclut tout le monde, même les Flamands. Difficile à croire, mais c'est vrai. Alléluia. La nouvelle alliance était temporaire. L'ancienne alliance était temporaire, la nouvelle alliance est éternelle. Il n'y viendrait plus d'alliance. C'est la dernière, elle est parfaite et elle est éternelle. L'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux, mais la nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus, qui a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Frères et sœurs, c'est ça notre privilège. C'est ça notre privilège ici ce matin. Quelle grâce, quelle alliance, quelle promesse et quelle
privilège de pouvoir en partager. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de votre attention.
Je remercie notre frère pour cette richesse d'enseignement. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur et prier par rapport à ce qui a été dit, que plusieurs puissent se sentir libres d'exprimer leur prière par rapport à cet enseignement qui nous porte. Merci Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, qui nous lave de tout péché. Merci Seigneur d'avoir purifié, d'avoir offert un sacrifice une fois pour toutes qui efface des milliards de péchés au travers de ton seul sacrifice, Seigneur. Tu es parfait pour l'éternité, tu nous rends saint pour l'éternité, Seigneur. Tu nous as mis à part et tu nous as greffés dans ton peuple, Seigneur. Merci Jésus parce que c'est une alliance inclusive, tu nous inclus dans ton projet de salut. Merci Seigneur. Merci pour le sang de la croix. Merci pour le sang de Gethsémané, le sang. Oh, merci Seigneur de la couronne d'épines. Merci pour le sang qui a coulé, Seigneur, de ton côté. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé de tes mains et de tes pieds. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Qui est le fondement de l'Église, qui est la mesure de force, Seigneur, qui nous est apportée, Seigneur, à commencer de prier, Seigneur, que l'intelligence, dans ce cas, soit ouverte, très échantillée, Seigneur, qui nous a parlé, Seigneur, que nous enseignons, et que nous puissions ainsi séduire en France, et que nous puissions séduire sans toi, Seigneur, en étant en connaissance, en étant rempli d'action de grâce, et en étant en créant l'adoration, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci Seigneur, parce que on n'a pas d'effort qui vient de toi, mais l'agneau de Dieu qui va nous empêcher de nous. Et nous te louons grâce, et ton Église qui se lève ce matin, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la reconnaissance, et à toi la reconnaissance, par tes pieds, Seigneur. Parce que nous en avons qu'un, Seigneur. Nous avons tout, Seigneur, déjà, avec un avance, nous connaissons le mal, notre reconnaissance, et notre passé. Nous passerons les vies, thank you.
Thank you. Pour l'Europe et que c'est à nous de se l'approprier, d'impacter tout, la place publique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans l'éducation, dans le monde des affaires, dans toutes les sphères de la société. Donc c'est un peu ça le but de ce centre, c'est de réveiller cette conscience européenne par rapport à ce que Dieu a fait en Europe et ce que Dieu veut encore faire en Europe. La deuxième, et alors les deux autres organisations sont plus axées sur la prière. Il y en a un qui s'appelle 24/7 Prayer, 24/7 prière en français, où on a lancé un peu cette idée d'avoir des maisons de prière, des pièces de prière dans la région, donc des fourrons dans le régio. C'est-à-dire que mon fourron est au centre d'une région transfrontalière avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Tout le monde sait que Fouron a été un lieu très paisible pendant des années, n'est-ce pas, avec les gens, les Flamands et les Wallons qui s'aiment tellement. Et quand on est arrivé là sur place, le Seigneur nous avait... On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment va-t-on pouvoir atteindre ces deux communautés qui vivent dans le même village tout en étant séparés les uns des autres? Et le Seigneur nous avait vraiment parlé très clairement que c'est la prière en continu qui va briser les divisions. Et donc on a commencé ça d'abord dans les fourrons, et puis on a commencé à répandre cette vision dans toute la région, donc aussi bien côté néerlandais, côté belge et côté allemand. On a suivi le Seigneur là où il nous a dirigés. Et là maintenant, on va continuer la même chose en Finlande. Et puis donc la troisième mission qu'on sert toujours, donc c'est la PEF, Pentecostal European Fellowship. J'ai jamais trouvé de mot pour traduire fellowship en français, mais bon, l'amitié pentecôtiste européenne, je sais pas comment. Il y a pas de mot bien précis, mais bon, c'est le rassemblement de toutes les communautés pentecôtistes européennes. Et donc là, on sert aussi en tant que coordinateur de prière. Et le but est d'inspirer cette vie de prière. La prière, c'est simplement le moyen de cultiver cette présence de Dieu dans nos vies tous les jours. Et c'est très simple, on apprend à prier en priant, tout simplement. Et donc on veut apporter des outils qui peuvent permettre au peuple de Dieu d'être encouragé à prier. Parce que je suis moi le premier à dire que j'aime pas tellement prendre du temps à part. Je préfère faire autre chose toujours que de prier, hein, n'est-ce pas? Mais on veut pouvoir, à travers notamment ces pièces de prière et d'autres choses, pouvoir encourager le corps de Christ à cultiver cette présence dans nos vies. Voilà. Et donc, voilà. Donc tout ce qu'on a fait là, on l'a fait en Belgique, et maintenant on va continuer là de Finlande. Et voilà, on se laisse diriger par Dieu, et on verra un peu. Oui, que les bonnes portes s'ouvrent, que les mauvaises portes restent bien fermées, et qu'on puisse rester fermement attaché à Christ, et ne pas se laisser perturber par les circonstances. C'est tout ce que vous pouvez prier. Dieu pourvoira à tous nos besoins de toute façon, d'une manière ou d'une autre, sur le plan spirituel, matériel.
Prier pour notre frère, soit béni de manière particulière dans son ministère, avec son épouse Célina.
Seigneur, nous venons avec notre frère devant toi ce matin. Merci de t'avoir mis dans son cœur cet appel,
Jésus.
Et quand tu mets ton appel dans le cœur d'un homme et d'une femme, un appel associé à une mission, Seigneur, tu l'accomplis glorieusement. Notre frère déménage dans un tout autre pays, une toute autre culture. Seigneur, mais nous te remercions que même si les gens sont différents et le pays est différent, toi tu es le même. Tes promesses restent valables. Et nous te demandons d'accompagner notre frère, d'ouvrir les portes des chevets, de pourvoir à tous leurs besoins, et de leur donner un ministère fécond là-bas.
Oui.
Que même ils soient bénis, mais aussi qu'ils puissent être une bénédiction. Te demandons ceci au nom de Jésus. Va avec eux, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Conduis-leur dans les grandes choses et dans les petits échanges. Qu'ils puissent toujours sentir que tu es avec eux. Qu'ils puissent toujours entendre ta voix dans leur cœur, Jésus. Et Seigneur, que le peuple finlandais puisse être béni de leur présence et de leur ministère.
Merci, Seigneur.
Remplis-leur de ton Saint-Esprit.
Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci.
Petit dernier témoignage, c'est marrant que frère Michael Williams, qui ne me connaît pas, prie pour moi maintenant, parce que quand j'ai commencé à aller à l'église, il y a maintenant une dizaine de fois, plus que ça, début des années 2000, j'allais, à l'époque j'habitais dans le Borinage, j'allais à l'église de Daniel Parker, et, dans la Framerie, que vous connaissez bien, et j'ai reçu des cassettes audio qui dataient de 10 ans auparavant sur l'Apocalypse. Et c'était les premiers enseignements que j'écoutais, c'était les enseignements de Michael Williams. Aujourd'hui, je quitte la Belgique et c'est Michael Williams qui me bénit, c'est la boucle est bouclée. Voilà. Merci.
Alors, nous allons, voilà, il y a une exposition de peinture depuis jeudi. Alors, regardez, voilà, l'évangile au travers de l'art. C'est aussi quelque chose qui peut être, c'est une démonstration de ce que Dieu fait aussi au travers des dons, hein, que Dieu a donné aux uns et aux autres, et en particulier d'Éric ici. Nous allons tous nous lever et remercier le Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Merci Jésus pour ta bonne parole, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta grâce. Garde-nous et merci pour tout. Merci pour tout ce qui a été accompli aujourd'hui. Merci pour la méditation de notre frère Cédric très tôt. Merci pour le message, cet enseignement puissant qui a été apporté par le pasteur Williams. Merci, tu nous raccompagnes dans ta paix, dans ta joie. Tu nous gardes en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Père. Au nom de Jésus, que la paix et la joie soient avec vous tous. Et... il y a quelque chose? Il n'y a pas de soupe aujourd'hui, donc voilà. Il y a certainement un verre de soda ou autre pour ceux qui le désirent. Que le Seigneur vous bénisse.
Après, tu m'en viens.
Thank you.
Souvent, on est bon.